Oh, up on my body. I'll sit here. Dans chaque vie ici présente, nous soumettons tout esprit à la Seigneurie de ses noms glorieux. Et par lequel nom qu'il soit invoqué, tous genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchit et toute langue reconnaît et proclame. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que nos langues proclament. Et Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. En ces lieux, en cet instant, dans chaque vie présente, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour vos acclamations. Vous vous asseyez, bien sûr. Merci de vous asseoir. En même temps que vous encouragez nos amis de la chorale. Merci. Merci beaucoup. Wow. L'équipe est au complet. Et pendant ces vacances, ils sont dans la formation, ils commencent des pratiques de formation et tout, avec la présence de notre frère Gignas, la technique côté instrumental de la chorale est renforcée, et nous croyons que d'ici la fin des vacances du Nouvel An chinois, la chorale aura hausser son niveau et nous voyons des nouveaux qui se joignent et qui commencent parce que la présence a commencé de manière régulière. Donc nous bénissons le Seigneur. Je suis en train de chercher, je ne sais pas si Bienvenue est présent. Bienvenue n'est pas là. Au fait, notre frère Bienvenue a perdu son grand frère depuis, ça c'est la deuxième semaine. Son grand frère était au Sénégal. Il était décédé et donc c'est hier que les obsèques ont eu lieu et nous étions en train de l'accompagner, mon épouse et moi, en prière normalement. On devait annoncer, l'accueillir et prier pour lui. Je crois que avec le décalage, et comme c'est hier que les obsèques avaient lieu, il n'a pas pu venir. Voilà, donc portons notre frère en prière. Et si vous avez son contact, après le culte, vous pouvez l'appeler pour l'encourager. Voilà. Et donc, c'est sur cette note de l'annonce nécrologique qui a touché un des nôtres que nous voulons vous inviter, déjà préparé par ce merveilleux moment à la parole de Dieu. Nous avons été préparés par le merveilleux moment, les chants, mais aussi le témoignage. Et je ne sais pas, je ne vais pas revenir sur les témoignages, mais bon, si moi j'étais sollicité, j'allais demander que les enfants soient là. Hein, ma soeur? Oui. J'allais demander que les enfants soient là parce que les enfants ont vécu. Ils ont vécu ces traumatismes et tous ces temps. Et il faut qu'ils vivent aussi ce que Dieu fait. Et qu'ils écoutent parce qu'ils ont vécu. Et quand ils écoutent ce qu'ils ont vécu, ça les guérit aussi. Voilà. Ça les guérit aussi. Donc, dimanche prochain, j'aimerais avoir ici toute la famille. Et nous allons prier pour vous. Voilà. Nous allons prier pour sceller cette restauration. Amen. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Alors, ce matin, nous continuons dans notre thématique de l'année, transformer pour transformer. Et par rapport à transformer pour transformer, nous avons commencé une série au fait qui s'articule ou s'est articulée autour de du passé toxique et nous avons parlé des différentes causes, raisons, situations qui font qu'un passé de quelqu'un devienne un passé toxique et comment nous pouvons guérir de ce passé toxique. Et donc, nous revenons parce que nous sommes au fait, nous sommes partis du thème transformation en profondeur qui était le grand sous-thème du thème général de l'année 2021, évangélisation et discipulat. Et donc, de ce grand thème, nous avons glissé dans transformation en profondeur qui nous a introduit dans le thème de cette année, transformer pour transformer. Je veux être transformé pour transformer. Dieu en Jésus-Christ me transforme pour se servir de moi, pour transformer les autres. Et donc, nous avons terminé l'année et commencé l'année 2021 et commencé l'année 2022 dans transformer pour transformer avec les aspects liés au triple besoin fondamental, c'est-à-dire la personne humaine et tout ce qui se rapporte à son besoin de transformation. Et nous avons dit le besoin d'acceptation, le besoin de sécurité et le besoin d'utilité ou d'importance. Après le besoin de transformation sur le passé toxique, nous voulons, toujours dans la même logique, aborder un autre aspect. Je vous ai dit que nous étions dans une salle d'opération. Nous étions en chirurgie. Ce moment, c'était des moments de chirurgie spirituelle. Et moi, je voudrais vous encourager à être libre. Si vous devez crier, si vous devez pleurer, ce n'est pas honteux de pleurer pour le bien que Dieu fait. Ce n'est pas gênant de pleurer parce que votre nudité intime, intérieure de vie se trouve dévoilée. Ce n'est pas gênant de pleurer de gratitude au regard de la main du Seigneur qui vous touche et vous pense. C'est pourquoi, dans cette logique, aujourd'hui, nous parlons de mon besoin de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, ma sœur Nelly. Vous risquez de croire que ce message a été fait pour elle ou par rapport à elle. Pas du tout. En tout cas, c'est que j'ai su qu'elle devait témoigner. Et puis, je ne sais pas de quoi elle devait témoigner. J'ai découvert et entendu tout avec vous ici.
Ah, Dieu merci.
Amen.
Amen.
Que Dieu te bénisse, ma fille. Mon besoin de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. C'est ça le titre. Mon besoin de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. Ça va barder. Dites à quelqu'un, relax. C'est sérieux, c'est très sérieux. Très sérieux. Je ne sais pas si on peut m'aider à débarrasser ça. J'ai besoin d'un peu plus d'espace. Peut-être amener ça ici. Ouais, et puis débarrasser ça. Ici, vous m'avez appris à prêcher avec beaucoup de discipline. Chez nous, on saute. On saute, on est là-bas, on est partout et on saute. Mais ici, là, bon, je pense qu'il y a aussi l'âge. Il ne faut pas qu'on se fracture ici en prêchant et ça devient une raison de ministère. D'accord. Voilà. Alors donc, je disais, le titre, c'est « Mon besoin de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure ». Donc nous commençons cette série aujourd'hui. Elle suit d'ailleurs ce que nous avons abordé autour du passé toxique, les paroles et tout ça. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous introduire à des informations générales autour de cette expression « guérison intérieure ». Je ne veux pas que vous soyez effrayés, comme les gens, lorsque nous sommes arrivés ici en fin 2000, les gens étaient effrayés par le thème de délivrance. Et je me souviens en 2001, février, lorsque nous avons eu la première séance de délivrance quelque part, les gens tombaient, je me souviens que les gens fuyaient. Lorsque les gens tombaient comme ça et que j'avançais vers les personnes pour prier, ceux qui étaient debout me voyant aller vers elles, se fuyaient et quittaient. Et au point qu'on a fermé toutes les portes. Et papa Mathieu était là. Papa Mathieu là, il était là. Doyen. Et les gens qui étaient tombés tout de suite là, les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment ça s'est passé. C'était la première fois. Ils sont partis, parce qu'ils étaient dans une résidence d'ambassade. Ils sont partis prendre les draps. Je ne sais pas d'où venaient ces draps-là. Peut-être des draps blancs. On a couvert. Dès que quelqu'un tombe, le protocole vient vite là. Le frère qui nous accueillait, chargé d'affaires, il a donné l'ordre tout de suite là, des draps blancs. On a couvert les gens de draps. Bon, revenons vite. Je suis pas là pour vous dire, soyez relax, il n'y a rien à être intimidé, il n'y a rien qui fasse peur. La guérison est une bonne chose, amen. C'est une bonne chose, guérison intérieure. Les informations générales autour de la guérison intérieure, c'est d'abord de comprendre que la notion de guérison intérieure se rapporte au recouvrement, à la restauration ou au rétablissement d'une personne en rapport ou à cause ou à la suite des blessures intérieures. Qui dit guérison intérieure fait penser aux blessures intérieures. Voilà. Donc, si l'on a subi des blessures intérieures ou une blessure intérieure, on se trouve perturbé, déséquilibré dans sa personne, dans son être. Et le recouvrement de l'équilibre, de l'harmonie intrapersonnelle, c'est une guérison. Mais puisqu'il ne s'agit pas d'une guérison des problèmes de santé physique, dans le sens de biophysiologique, qui se traite et se soigne par la science qu'on appelle la médecine. Puisqu'il ne s'agit pas de cette guérison-là qui passe par la thérapie médicale, il ne s'agit pas de cela. Nous appelons cela guérison intérieure. Recouvrement, restauration, rétablissement de la santé d'une personne dans la dimension d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Et cela par rapport à cause ou à la suite des blessures intérieures. Qui dit et évoque guérison intérieure fait penser à blessures intérieures. Donc nous devons parler des blessures intérieures. Une blessure intérieure ou les blessures intérieures peuvent se comprendre ou se traduire par l'état de déséquilibre de personnalité, comme j'ai dit, causé par des torts, des abus, des atteintes qui ont affecté ou touché son être intérieur. Quand nous disons intérieur, guérison intérieure, blessure intérieure. Intérieure fait penser non pas à la carapace physique, l'enveloppe, le corps que nous voyons, avec tout son organigramme. Vous vous souviendrez, pendant le mois précédent, nous avons fait une comparaison illustrative de la personne humaine que vous et moi sommes d'avec un appareil, l'ordinateur, en voyant les parties composant l'ordinateur, un rapprochement à notre personne comme un tout avec les différentes parties. Et donc, lorsque nous parlons d'intérieur, ça se rapporte d'abord à l'atteinte, aux atteintes, aux torts, aux abus qui ont touché, qui ont affecté, qui ont abîmé, qui ont déformé. À ces mots déformé, nous reviendrons sur ça plus tard. L'être intérieur, c'est-à-dire soit l'âme ou le cœur, ou l'esprit. Et avec l'être intérieur, l'âme, le cœur, l'esprit, nous avons des éléments que nous connaissons comme la volonté, la conscience, la subconscience, l'inconscient. Si bien que, par exemple, de manière anticipée, quelqu'un peut, dans le naturel, manquer d'appétit. Ce n'est pas parce qu'il a des vers intestinaux, mais simplement parce que son cœur est touché et le fait qu'il a touché son cœur se répercute sur le sens du manger, du goût, l'appétit. Le cœur guéri, l'appétit revient. Quelqu'un peut souffrir d'insomnie. Ne pas avoir le sommeil de manière normale. Ce n'est pas parce que cette personne, c'est pas moi, est surexcité dans sa tête ou quoi, comme on dit, il a pété le plomb. Ce n'est pas à cause de ça, mais c'est simplement parce que les paramètres psychiques de la personnalité, de l'être qui travaille pour le sommeil, que nous appelons la subconscience, a été touché. Alors, dans la conscience, je voudrais dormir et me reposer. Je suis conscient et je vais dormir. Et je me mets en position pour dormir. Ça, c'est la conscience à moi. Mais dormir, mon corps pour dormir, il faut que la subconscience agisse. Or, elle est affectée, elle est malade, elle est touchée. Conséquence, insomnie. Le sommeil ne vient pas. Guérison intérieure. Juste des notions et des informations générales. Et de l'intérieur, blessure, une blessure, peut être appelé aussi une plaie, n'est-ce pas? Quand tu te blesses et que la blessure reste, ça devient une plaie. Et la plaie, lorsqu'elle n'est pas soignée, elle peut s'infecter. Et l'infection peut aller jusqu'à ce qu'on puisse, par exemple, t'amputer le membre qui a été touché, pour permettre au reste des parties de ton organisme de bien fonctionner. Et donc, une blessure qui fait une plaie et qui devient infectée fait que la personne n'est plus en bonne santé. Waouh! Et lorsqu'une personne n'est pas en bonne santé, est-ce que vous me suivez? Dites-moi si vous suivez. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, on dit il est comment?
C'est ça le mot.
Waouh! Vous voyez, nous sommes partis de guérison intérieure à blessure intérieure. Maintenant, c'est maladie intérieure.
Donc il y a des gens, vous le voyez physiquement, apparemment, consciemment, en bonne santé, d'apparence physique, biophysiologique, mais à l'intérieur, il y a une blessure ou des blessures ou une maladie. Vous avez affaire à un malade. Et la maladie dont il souffre, on va l'appeler maladie intérieure. Donc, une blessure intérieure ou des blessures intérieures peuvent créer des maladies intérieures. Du coup, besoin de guérison intérieure. Mais le problème, c'est que parfois, ce qui est intérieur, qui a eu lieu dans l'intérieur, dans l'âme, dans l'esprit, dans la volonté, dans, c'est pas moi, un certain nombre de choses que nous allons expliquer, étoffer progressivement, c'est à l'intérieur, on ne voit pas, ça peut transparaître, comme le cas de cette sœur que je vous ai raconté, qui ne pouvait pas tolérer d'être refusée, empêchée d'appeler sa maman biologique maman, obligée d'appeler la marâtre maman. Parce que c'était la marâtre qui faisait la fierté du monsieur, le papa. Et donc, pour ne pas essuyer la gêne et tout ça là, voilà votre maman. C'est elle la maman. Alors, la colère entretenue et tout cela, de frustration, ça a affecté sa santé. Elle a développé la sinusite. Elle ne sentait pas. Les larmes ne coulaient pas de ses yeux. Elle ne pouvait pas sortir sous le soleil jusqu'à ce que restaurée, guérie, les larmes, je me rappelle, dans la salle, une salle de prière, pas fireplace, c'était en 2006-2007, dans cette salle-là, pendant la prière, je la vois encore à genoux, lorsqu'on priait, son visage était rempli de larmes, pour la première fois. Il y a des choses, des boulons et des vis dans ton organisme, dans ta personne, qu'on doit ouvrir, qu'on doit défaire, qu'on doit refermer, arranger.
Alléluia.
Pour que tu sois bien.
Merci.
Et tu le seras.
Merci,
merci Seigneur Jésus.
Amen.
Cela signifie que ce qui affecte notre être intime, invisible, intérieur, appelé blessure intérieure ou maladie intérieure, qu'on ne voit pas, mais dont nous souffrons réellement, franchement, si quelqu'un souffre dans son cœur, même s'il fait semblant, il vous sourit, lui-même sait qu'il souffre. Il peut tout faire pour plaire, pour satisfaire, pour donner l'impression, pour ne pas déranger. Mais dans le secret de lui-même, personne ne peut dire à quelqu'un, tu ne souffres pas s'il souffre. Ou tu souffres s'il ne souffre pas. Personne. Chacun le sait. Et donc, lorsque cela se manifeste sur le plan biophysiologique, sur le plan apparent, on parle, vous avez déjà certainement entendu parler de ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire une maladie, un problème de santé réel, mais dont la cause est psychique. Voilà. Alors, qu'il s'agisse de blessures intérieures ou de maladies intérieures, c'est facile à identifier cela. C'est facile de savoir que j'en souffre ou pas. C'est facile de savoir que j'ai besoin de guérison intérieure ou pas. C'est très facile. Et c'est ce que nous allons apprendre. Je voudrais vous faire un petit exercice. J'ai ri comme ça là. Il y a des gens qui ont aussi ri avec moi. Parce que rire, c'est bien pour la santé. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous riez. Rire, c'est bien. Pourquoi j'ai ri? Je voudrais vous poser une question. Très sérieuse. Qui a besoin de guérison intérieure? Ne répondez pas, ne levez pas la main. Qui a besoin de guérison intérieure?
Tout le monde.
Non. J'ai dit on ne répond pas, sans commentaire, pardon. Écoutez, une question, la même question transposée. Qui n'a pas besoin de guérison intérieure? Qui a besoin de guérison intérieure? Qui n'a pas besoin de guérison intérieure? Vous allez répondre plus tard. Chacun va répondre. C'est comme la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine pour quelqu'un d'autre.
Dieu merci.
Chacun doit prendre lui-même. Parce qu'avant de prendre, chacun se regarde dans son cœur lui-même. Personne ne peut regarder dans le cœur de l'autre. Même ceux qui sont devenus un. Ceux qui ont fait cette mathématique spirituelle, 1 plus 1 égale 1. Franchement, ils sont un, mais en réalité, nous voyons deux. Donc, c'est deux bouches qui vont prendre la Sainte Seine. Deux âmes qui vont se présenter devant Dieu. Alors, cette question, vous y répondrez après. Ai-je besoin de guérison intérieure? Ou n'ai-je pas besoin de guérison intérieure? Suivons. Pour savoir, nous allons d'abord évoluer dans... La démarche, c'est de nous aider à identifier. C'est très facile, très très facile de savoir si oui ou non on a besoin de guérison intérieure. Si oui ou non on a des blessures intérieures. Une blessure ou des blessures. Très souvent, dans l'expérience, depuis ma conversion et dans le ministère jusqu'à présent, sans exagération, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une seule blessure intérieure. Pourquoi? Vous savez, les situations intérieures sont infectieuses et contagieuses. Très contagieuses. C'est pourquoi une blessure intérieure va entraîner une autre blessure intérieure. Et on se trouve toujours en situation de blessures intérieures. Alors, laissez-moi vous donner ici les causes, les origines ou sources d'où des situations, des blessures intérieures ou des maladies intérieures peuvent venir. Et la fois prochaine, nous allons identifier de ces causes-là les symptômes, les signes, les manifestations. Vous savez, dans la foi chrétienne, par exemple dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 14, on parle des manifestations du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a conduit à dire, waouh, de même qu'il y a de la part de la présence de Dieu dans une vie remplie du Saint-Esprit, touchée par le Saint-Esprit, il y a des signes qui montrent que le Saint-Esprit est là, parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit. Mais il agit, c'est comme cette lumière, cette lumière que nous voyons, c'est l'électricité. La lumière du dehors, c'est le soleil. Qui n'a jamais vu le soleil? Jamais vu. Vous voyez, la lumière du dehors, c'est le soleil, nous voyons d'où elle vient. Et nous voyons le soleil, mais ça là, on ne voit pas. On ne voit pas la lumière, c'est l'électricité qu'on ne voit pas. Mais c'est une donnée réelle. Physique. Donc, nous allons voir, et l'Esprit m'a conduit à montrer que si le Saint-Esprit qui est réel, qu'on ne voit pas, gagne, touche, travaille, baptise, immerge, remplit, dirige la vie d'une personne, c'est visible, c'est remarquable. D'où on parle par exemple des dons du Saint-Esprit ou des manifestations du Saint-Esprit, des charismes. Le mot charis en grec, grâce, c'est-à-dire les bénéfices que nous recevons dans notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ce sont des grâces non méritées, des manifestations, l'extériorisation de la présence agissante du Saint-Esprit en une personne. La présence de Dieu en une personne s'extériorise. L'Esprit m'a dit que de même qu'il en est ainsi pour la présence agissante de Dieu en une personne, à travers le Saint-Esprit et les manifestations qu'on peut voir, comme la joie, la paix, les prophéties, tout ce que vous connaissez, de même, la présence agissante du diable dans une personne se manifeste aussi. Et nous allons voir dans le domaine des blessures intérieures, des maladies intérieures, comment cela se manifeste. Mais aujourd'hui, allons-y d'abord avec les causes, origines ou sources des blessures intérieures ou maladies intérieures. Ce sont des choses que vous connaissez, je les cite sans commentaire. Et nous y reviendrons pendant cette série. La famille, notre famille biologique. Ça peut être la source, la cause, la voie par laquelle nous subissons des torts, des abus qui deviennent des plaies, qui s'infectent et deviennent des blessures intérieures, des maladies intérieures. Et dans la famille, nous avons les stades de la vie comme l'enfance et surtout la petite enfance. Chers parents, attention à vos enfants tout petits. Parce que très souvent nous disons, l'enfant est encore petit, il ne comprend rien. Mais c'est justement là, parce que les grands, l'âge peut s'exprimer. Les petits, ils intériorisent tout. Et ils stockent. Il y a le domaine de l'image de soi. L'image que tu as de toi-même. L'image de soi. L'identité personnelle, le statut personnel, le statut, l'image de soi. Attention, certains parents, surtout, excusez-moi, je ne sais pas ici, j'ai jamais entendu, mais chez moi, les mamans, lorsqu'elles sont en colère, elles souffrent du traitement du monsieur, facilement, elles peuvent balancer à l'enfant, bâtard, facilement comme ça. Bâtard, ton propre enfant, ton propre fils ou fille, tu l'appelles bâtard. Moi, je pense que le vrai bâtard, c'est toi. Parce que c'est toi qui as fabriqué. Tu as produit. Parce que la poule donne la poule ou le coq. Et ça, ce mot-là, bâtard, va rester et va résonner chez l'enfant. Et ça va donner des problèmes d'image de soi. Des statuts, d'identité. C'est le domaine des blessures intérieures, image de soi. Comment tu te sens lorsque tu te regardes au miroir? Tu regardes ta tête, tu regardes ta taille, tu regardes ton teint, tu regardes ta corpulence. Comment tu te sens? Lorsque tu regardes ton nez, tu regardes tes oreilles. Comment tu te sens lorsque tu regardes tes cheveux tels qu'ils sont? Vous savez, cette série, cette année-là, ça va être terrible. Je veux vous parler des choses terre à terre qui passent, mais qui sont messagers, qui transforment. Ah, j'ai béni le Seigneur, je suivais un élément scientifique qui expliquait comment est-ce que la personne noire que nous sommes, et notre texture et notre organisation, et même notre chevelure, comment nos cheveux, la chevelure est faite, comparée aux autres races. Et tout de suite là, cet élément montrait, et j'ai... Ça montrait une absurdité de voir les noirs avec les cheveux crépus en train de chercher à transformer leurs cheveux pour que ça ressemble aux autres peuples qui envient les cheveux la crépus. Ça me rappelle sans phare, je vous dis la vérité. Au début ici, je me souviens des amis européens qui venaient, tout ça, qui disaient, mais comment est-ce que vos cheveux sont? C'est-à-dire que nos cheveux à nous, on peut traiter ça n'importe comment. Comment ils sont comme ça? Tu ne peines pas, tu te laves, tu es bien. Tu fais, mais comment ça? J'étais surpris de voir ces gens-là de couleur, comme vous dites, de couleur blanche, admirer notre chevelure. Et je suis sidéré et étonné de voir des jeunes gens qui transforment les cheveux. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a des problèmes pour... Lorsque vous regardez la tête de certaines personnes, vous vous demandez ce qui est sur la tête, c'est les cheveux ou c'est quoi? Guérison intérieure, nous allons parler de tout ça, noir sur blanc. Relax. Relax. Nous sommes... Pourquoi je cite ça? Question de image de soi. Question d'image de soi, identité personnelle, statut personnel. Merci Seigneur. Je voudrais que vous soyez bénis et que vous soyez libérés, que vous soyez en paix. Si c'est pour des raisons de confort et d'esthétique, ce n'est pas un problème. Mais quelle est la vraie raison qui te fait parer? Tu te pares comme ça. Et ce, simplement, honnêtement, une raison d'esthétique et d'aise, ou c'était une expression d'un malaise, d'une anomalie, d'un état problème intérieur, malade intérieur, besoin de guérison intérieure. Il y a le domaine des relations. Surtout les relations avec tous ces hauts et bas et ces déceptions. Oui, les relations avec autrui. Proverbe dit, de même que la pierre s'est polie au contact avec une autre pierre, la personne humaine s'affine, s'affûte et s'est polie, devient polie comme la pierre polie. Au contact, au frottement avec autrui. Mais ce frottement-là, en relation, s'il est empreint de déception, de nuisance, il devient cause des maladies intérieures ou des blessures intérieures. Les relations, surtout les relations qu'on appelle sentimentales. Ça nous amène au domaine de la vie sentimentale. Autre cause, domaine des maladies intérieures ou des blessures intérieures, la vie sentimentale. C'est-à-dire la vie, la relation entre sexes opposés ou entre même sexe. Aujourd'hui, vie sentimentale, quand nous on grandissait avec l'idée que tout ce qui est vie sentimentale, c'est sexe opposé. Aujourd'hui, là, ce n'est pas sexe opposé seulement. Laissez-moi le dire sans sa permission, notre fille Bérite a souffert en Angleterre une fois. Nous étions obligés avec ma femme de faire un travail. Pourquoi? Parce qu'elle a souffert avec l'une de ses amies. De quoi? D'une amie, fille, qui voulait se suicider, qui a commencé à se faire, à se couper, qui voulait se suicider simplement parce que sa copine lesbienne ne l'aimait plus. Il y avait des problèmes dans les relations des deux. Et elle devait courir au secours avec une autre amie pour la surveiller. Elles ont passé la nuit là-bas, en train de surveiller cette fillette. Parce que sa copine là s'est trouvée, je pense, dans une autre, un autre pays ou quoi. Et c'est pas moi si elle avait appris qu'elle a, qu'elle voulait plus d'elle et tout. Vous voulez en savoir plus, aborder Bérite avec ma permission à la fin. Excuse-moi, je n'ai pas demandé ta permission. Mais bon, ils ne vont pas connaître la personne. Alors, vous voyez, vie sentimentale, chers enfants, ce n'est pas pour rien qu'il y a, même les savants ont dit l'âge de la maturité. L'âge de la maturation, l'âge adulte. Les enfants, ne vous amusez pas. Je reviens encore sans conflit à ces écoles de liberté, comme par exemple notre fameuse école qu'on appelle lycée français. Avec des enfants qui apprennent à l'âge de 4 ans, 6 ans, 8 ans, à commencer à s'embrasser, à commencer à faire des gestes sentimentaux des uns vers les autres. Parce que c'est la culture, c'est la sexualité et tout. C'est une sollicitation de l'éveil sentimental de manière prématurée et précoce. Attention, chers enfants. Proverbe va dire, quelqu'un peut-il mettre du feu dans la poêle? Vous savez, ça va vous amuser. Au début de la conversion, vers les années 80 comme ça, un frère était converti, le groupe là, avec la communion fraternelle. Avant sa conversion, il était terrible à la cigarette. Et il était converti, il priait, il chantait, rempli du Saint-Esprit, comme on le voyait dans les réunions. Mais dans la cachette, il n'était pas encore libéré de la cigarette. Et puis le voilà au coin quelque part en train de tirer sa cigarette. En train de tirer sa cigarette. Et puis voilà des frères qui apparaissent. Il voit le groupe de frères qui viennent. Tout de suite, par un réflexe, il met en poche. Et il dépose la cigarette là-bas. Et les frères viennent. Ah bonjour frère. Il laisse dans la poche. Et il salue. Et le frère ne salue pas pour passer. Ah ça va frère, comment? Et donc voilà en tout cas. Et il était là en train de se frotter. Et vous comprenez la suite, finalement, ça a commencé, on voit la fumée. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible a raison. Quelqu'un peut-il mettre du feu dans sa poche sans qu'il soit brûlé? Attention, la vie sentimentale, c'est parmi les choses précieuses que Dieu a offertes aux humains que nous sommes. Je vous dis, ça fait partie de notre sexualité et c'est sacré. Ah oui, lorsque c'est vécu dans des conditions abruptes et non conventionnelles, réunies, non propices, aïe, 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 vous vous abîmez. Ça me fait mal parce que j'ai, avec ma femme, les personnes avec lesquelles nous avons fait du travail pastoral délicat. C'est moins les personnes qui ont été touchées dans leur vie par les démons. Ah oui. Les diables qui t'envoûtent, les démons, la malédiction, pour t'exorciser, pour te délivrer, c'est facile. Ah oui. Mais là où ton cœur et ton corps et ta volonté ont été en fusion avec un autre cœur, avec un autre corps. Aïe, aïe, aïe. Jeunes gens, attention. Une fois de plus, comme on faisait chez moi. Vie sentimentale. Un autre domaine, c'est les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences non résolues, non solvées dans notre vie peuvent devenir des origines, des causes ou des sources de blessures ou de maladies intérieures. Nous reviendrons sur toutes ces choses avec des exemples concrets plus tard. Le décès ou la perte. Parce que le décès est une perte fatale. Lorsque on perd un membre de famille, on perd une personne importante, un mari ou sa femme, ou un enfant, ou un parent. Ça peut créer une maladie ou une blessure intérieure, ou la perte de quelque chose. Ah, la chose à laquelle notre sens, notre vie était attachée. peut nous affecter au point de nous rendre malades. Et bien sûr, nous avons parlé récemment de toutes ces choses-là, comme rentrant dans le domaine du passé toxique, si vous voulez. Le passé toxique, le vécu, les paroles toxiques, toutes ces choses-là. Laissez-moi ici, très rapidement, vous donner, avec cette introduction des causes-origines, nous reviendrons sur d'autres choses, mais laissez-moi ici, avant de continuer pour atterrir, nous allons lire des passages bibliques et prier. N'oubliez pas, je vous ai posé une double question, une question identique, équivalente. La sœur, j'ai dit qui a besoin de guérison intérieure. Et j'ai dit qui n'a pas besoin de guérison intérieure. De manière personnelle, ai-je besoin de guérison intérieure, moi? N'ai-je pas besoin de guérison intérieure? Vous y répondrez. Écoutez, voici quelques exemples ou illustrations bibliques des situations des personnes en besoin de guérison intérieure, soit parce que maladie intérieure, soit parce que blessure intérieure. Je ne vous donne pas de référence, je cite des cas que vous pouvez découvrir, que vous connaissez ou que vous allez découvrir en m'écoutant les citer. Abraham était en besoin parce que Abraham avait un problème, des complexes à cause de la beauté de sa femme Sarah. Je ne sais pas si les gens disaient toujours à Abraham, ta femme est très belle. Vous savez, il y a des gens qui aiment dire ça. Parfois, on dit même à la femme que ce monsieur-là ne te convient pas. Tu ne conviens pas à ce monsieur-là. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Et je suis sûr qu'Abraham doit avoir reçu des versions comme ça. Si bien qu'il en est devenu frustré et complexé. Du coup, quand il allait dans un milieu influent, il disait à sa femme, ici, ne te présente pas comme ma femme, dis plutôt que tu es ma sœur. Comme ça, je vais avoir des faveurs à cause de toi. Il y a des personnes dans la vie, dans les familles, dont les gens se sont enrichis et les gens ont fait de toi, de ta personne, de ta beauté, de ton statut. C'est pas moi. Ils ont fait de toi leur marchandise, leur produit, leur objet de faveur. Jacob a vécu avec une double culpabilité. Il a menti à son papa et il a menti à son frère pour prendre le droit d'aînesse. Son bon sens lui a dit de ne pas vous prendre. Mais sa maman lui a dit, écoute, ça c'est ce qui a échappé à la dame. Elle a dit, écoute, ta malédiction là, qu'elle tombe sur moi. Parce que Jacob a dit, écoute maman, selon notre loi et notre culture, le papa doit bénir l'aîné. Et l'aîné c'est Ésaü. Moi, si je passe pour Ésaü l'aîné, la bénédiction là de mon père sur moi va devenir malédiction. Et la maman dit, écoute mon fils, fais ce que je te dis, que cette malédiction là vienne sur moi. Elle pouvait porter la malédiction spirituelle, mais ce qui est dans le cœur, ce que le pauvre vit dans son cœur, la présence permanente d'un mensonge, c'est resté dans la vie de Jacob. Jusque plusieurs années après. D'ailleurs, nous allons étudier et méditer Jacob parmi les cas de transformation. Plus tard. Intéressant. Il y a Joseph qui a beaucoup souffert. Joseph a souffert des trahisons et des déchéances. Je ne sais pas si quelqu'un a été trahi parmi vous ici. Est-ce que vous avez vécu avec des amis, avec des parents, dans une relation, dans une situation de confiance, de sécurité, d'amitié, de confort, d'harmonie, et pouf, vous vous retrouvez victime de coups ou d'un coup. Et vous ne vous imaginez pas qui était derrière, dans le laboratoire en train de fomenter, de fabriquer, de produire ces coups. Qui a besoin de guérison intérieure? Joseph a vécu la trahison de ses propres frères. Il a vécu la trahison d'une femme qu'il a voulu honorer par rapport à son maître. Il n'a même pas touché la femme. La femme a fait un grand mensonge pour lui. Il a vécu la trahison des amis qu'il a assistés en prison, sur qui il a prononcé des révélations prophétiques qui se sont accomplies. Celui qui a été élevé, sorti, mis en position, a oublié l'instrument de Dieu. Trahison. Jusqu'à la déchéance. Alors qu'il était porteur des promesses. Joseph. La trahison. Jusqu'à ce que un jour, tout cela va apparaître. La Bible va dire en Genèse, si vous regardez 38, chapitre 38, 39, 40 là-bas, la Bible va dire Joseph ne pouvait pas se contenir devant ses frères. Il ne pouvait pas se contenir. Pourquoi? Parce qu'il les reconnaissait. Et en les voyant et les écoutant, jurait que nous étions nés au temps. Notre papa, voilà, un frère est décédé, il est mort, un autre est là-bas. Joseph se trouve en face des gens qui, pendant des années, se sont entêtés dans un mensonge. En face même de la personne là. Il ne pouvait pas se contenir. Il s'est retiré. Il a éclaté en sanglots. C'était le processus de sa restauration et de sa guérison intérieure. Nous avons des exemples nombreux dans la Bible comme cette femme Naomi, qui a été dépouillée de tout ce qui lui était cher. Naomi était traumatisée et déçue par la nature ou par Jéhovah, par Yahweh. Parce que Naomi était une femme complète, mariée avec ses enfants, dans un régime système patriarcal. Elle se retrouve, avoir perdu son mari et avoir perdu ses enfants, elle se retrouve une veuve dépouillée complètement. Son nom, elle l'a transformé en Mara. Mara, en hébreu, qui signifie amer, amertume. Je ne suis plus Naomi. Moi, je m'appelle amertume. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle tristesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle ici pleur? Quelqu'un qui s'appelle ici malheur? Malchance? Dieu merci, tu es au bon endroit. Cette étiquette-là, cette sobriquet-là, va se volatiliser de soi-même déjà maintenant, par la parole. Naomi, nous avons Esther, qui a souffert de problèmes d'identité. Elle était esclave et puis exilée. Problème de statut et d'image. Et ça a donné des limites pour pouvoir s'exprimer et s'assumer. Mais nous avons la femme là, je ne sais pas si c'est elle Marie. Vous connaissez dans la Bible une femme qui est venue s'agenouiller auprès de Jésus, briser sur ses pieds un parfum très cher et commencer à essuyer les pieds de Jésus de ce parfum avec ses cheveux. Vous connaissez cette histoire dans les évangiles. Et les gens regardent non pas la femme mais Jésus curieusement. Ils disent, mais il est le Messie. Le sauveur, le fils de Dieu. Mais il doit savoir que cette femme-là est une femme de mauvaise vie. Mauvaise vie signifie dévergondée, prostituée, débauchée hors cadre. C'est-à-dire, selon leur statut juif, elle ne peut pas approcher. Et si elle approche, Jésus doit, comme le pire que le, c'est pas moi quoi, comme ça. Mais Jésus la laisse. Cette femme avait besoin de restauration et de guérison intérieure. Et Jésus a dit, elle a embaumé mon corps pour la mission de rédemption, pour la sépulture. Waouh! Dieu voudrait te guérir pour que tu participes comme missionnaire dans le salut des autres, dans la rédemption des autres. Nous avons l'exemple de la femme samaritaine. La femme samaritaine est cette femme qui avait une vie sentimentale irrégulière. Ah oui, au point qu'elle était fatiguée de présenter les gens. Je pense que cette première relation, elle a présenté, ah c'est mon mari. Ah c'est mon mari. Ah c'est mon mari. Jusqu'à un jour, tellement qu'elle a passé sa vie d'homme à homme. Elle vit avec tel homme pendant des années, on se sépare. Avec tel homme. Vous savez, en méditant ce passage, j'ai compris qu'il y a des gens qui se trouvent en relation. Et vous vous dites, la société vous dit, vous êtes marié, vous êtes bien, vous êtes en ordre. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas en ordre. Mais plus encore, laissez-moi vous dire quelque chose. Pas aux yeux de Dieu, mais vous-même dans votre cœur. Vous savez que ça c'est pour donner l'impression, c'est sauver la facette et la face. En réalité, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est ce que la femme samaritaine a vécu. Elle était avec un homme. Et Jésus lui a dit, femme, voilà, donne-moi à boire. Est-ce que, voilà, bon, écoute, coupe au cours. Va me chercher ton mari et amène-le-moi. Et là, elle trouve qu'on a touché au secret là où on ne touche pas. Mais, par la force du ministère de Jésus, elle était obligée de dire la vérité. D'abord, elle a dit, elle a menti. Non, elle a dit la vérité, en fait. Elle a dit la vérité. Parce qu'elle avait un homme. Mais ce n'était pas son mari. C'est cette vérité qu'elle connaissait, que les autres ne connaissaient pas. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, oui. Tu dis la vérité, tu n'as pas de mari. Mais tu en as eu déjà, je pense, 5 ou 6. Et celui avec qui tu vis n'est pas non plus ton mari. En disant ça, tu as dit la vérité. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, peut-être tu te trouves dans des relations que tu penses te donner équilibre et satisfaction. Mais tu sais quand tu rentres dans le secret de toi-même que ça ne va pas. Besoin de guérison intérieure pour que Dieu mette son doigt de médecin, chirurgien spécialiste là où il y a la plaie, la blessure, ça sera guéri et cicatrisé. Tu seras restauré. Et nous avons un dernier exemple, c'est Timothée. Le frère Timothée avait un problème d'origine. Timothée, pour des enfants. Dans les familles aujourd'hui, on parle de familles composées. Où papa a eu des enfants, maman a eu des enfants, on se retrouve, on les met ensemble. Dieu pardonne ce qui s'était passé. Dieu comprend les raisons de tout ça. Mais cela n'empêche pas des ennuis parfois. Timothée s'est retrouvé être le fils d'un grec et d'une juive. Voilà. Donc déjà, sur le plan religieux, ça fait païen et peuple élu. Ça signifie quoi? Que Timothée est un enfant impur. Déjà. Et il n'a même pas grandi avec son papa. À cause de cette situation. Il s'est retrouvé auprès de sa maman et de sa grand-mère maternelle. Comme tout enfant cherchant le papa qui n'a pas trouvé, à qui on doit rappeler ton statut. Ça me rappelle un jeune homme, un enfant, qui a souffert dans une famille à cause de la couleur de sa peau. Des enfants métis ou métis. Parfois les gens disent, toi en fait, tu es blanc ou tu es noir. Et parfois, pour se faire accepter, il se sent plus à l'aise avec ceux qui l'acceptent, les noirs. Et lorsque je joue, ça ne va pas, on dit, d'ailleurs, tu n'es pas noir. En réalité, toi, tu es blanc. Et quand il va avec les blancs là-bas, on dit, mais toi, tu peux aussi être blanc, toi. Tu ne vois pas que tu es noir? Ce sont des situations pour lesquelles nous avons besoin de sensibilité. Pour permettre à ce que les gens grandissent dans un statut. Et nous avons parfois des enfants qui sont concernés dans ces milieux où on ne ménage rien en termes de regard, en termes de propos. en termes de traitement. Besoin de guérison intérieure. C'est pourquoi, à la suite de tout ceci, il apparaît que les guérisons, situation de blessure intérieure, ça peut être, nous avons deux sortes de maladies intérieures ou de blessures intérieures. Il y a blessures intérieures conscientes ou maladies intérieures conscientes et blessures intérieures ou maladies intérieures inconscientes, je préfère non conscientes. Voilà. C'est-à-dire, la personne sait que je souffre de ça à cause de ça. Ça, c'est conscient. Ou la personne vit des situations dont il souffre, elle souffre la personne, mais sans se rendre compte que c'est une maladie intérieure, une blessure intérieure. Nous reviendrons sur tout cela. Parce que, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, quelle que soit la sorte, la cause, la nature, l'origine de ta maladie intérieure, de tes blessures intérieures, puisque c'est intérieur, il y a quelqu'un qui sait parfaitement rencontrer et traiter l'intérieur. Il s'appelle Jésus-Christ, ton Dieu. Il est là pour te soigner, pour te guérir. Amen. Donc la transformation en profondeur, c'est une restauration. Notre salut en Jésus-Christ va toucher jusque notre intérieur. Parce que ces blessures intérieures, maladies intérieures, se manifestent très souvent sur le plan du comportement, des émotions, sur le plan des sentiments, sur le plan des relations, sur le plan de notre vision de la vie. Il y a des gens, vous les trouvez, il est là avec tout. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Il est bloqué. La vision de la vie. Parce qu'il a besoin de guérison intérieure. Ce sont des domaines. Domaines de comportement, de relations, de sentiments, de l'émotionnalité, de la vision de soi-même, la vision du monde, la vision de la vie présente, du futur. Si on est malade intérieurement, blessé intérieurement, ça devient affecté. Gloire au Seigneur, il y a une bonne nouvelle de guérison. Et c'est ces paroles que nous allons lire, parce que dimanche prochain, nous explorerons les symptômes et les signes qui traduisent concrètement les besoins de guérison intérieure à travers soit maladie intérieure, soit blessure intérieure. Ensemble, nous notons des passages, nous lisons, sera la méditation qui nous accompagne à la prière et à la fin de notre culte et notre message. Nous lisons des passages. Donc vous avez suivi toutes ces informations et donc pour nous éclairer sur ça, à partir de dimanche prochain, nous irons avec des petits morceaux autour de la guérison intérieure. Nous disons encore aujourd'hui, mon besoin personnel de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. Mon besoin personnel de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. Allons-y ensemble. Mon besoin personnel de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. Allons-y encore. Mon besoin personnel de transformation en profondeur s'appelle la guérison intérieure. Et la question double, qui a besoin de guérison intérieure? Qui n'a pas besoin de guérison intérieure? Réfléchissons. Méditons donc. D'abord, Jean chapitre 8, verset 3 à 4 et puis 10 à 12. Jean 8, 3 à 4. Et puis 8 à 12. Ouais, 10 à 12. Si vous pouvez voir, après avoir noté, lisons ensemble, les amis. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » exposer quelqu'un. Elle est exposée. Verset 10 à 12. Ça c'est... Oui, 10 à 12. Allons-y ensemble. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà, après la déclaration, cette femme qui n'est pas condamnée, Jésus ne la condamne pas. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère. Jésus ne la condamne pas. Je ne sais pas quelles sont les situations qui t'ont mises en état et en statut dégradé. Tu deviens comme déchu. Qu'est-ce qui fait ta maladie ou ta blessure intérieure? Quoi qu'il en soit, Jésus veut être seul avec toi. Il veut être seul avec toi, non pas pour te juger et te condamner, mais pour que de sa présence, sa lumière éclaire les ténèbres de ta vie. Et que tu marches dans la lumière véritable, comme cette femme. Merci Seigneur. Lamentations, chapitre 1. Nous allons lire Lamentations. Chapitre 1, verset 20. Notez chapitre 1, verset 20. Ensuite, nous irons au chapitre 3, verset 1 à 6, et puis 17 à 24. Lamentations. Méditons. Et pensons en lisant ces passages à tout ce que nous avons à dire. Allons-y. Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages. Au-dedans, la mort. Au-dedans, dans ton cœur. Tu souffres de quoi? Besoin d'exposer cela au Seigneur. Chapitre 3, verset 1 à 6. Merci à la technique. Allons-y ensemble. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Quelqu'un a souffert comme ça, je ne sais pas. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Nous allons jusqu'au verset 6. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Nous sommes en train de voir des situations de guérison intérieure, de blessures. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Donc, il y a des gens qui sont vivants. Mais en réalité, il y a des gens qui disent, je préfère même mourir. Tu n'es pas seul. Mais Dieu merci, il y a une bonne nouvelle pour toi. Merci. Tu peux vivre. Alléluia. Amen. Et nous continuons dans le même chapitre maintenant, le verset 17 à 24, s'il vous plaît. 17 à 24. 17, allons-y. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là sans espérance à l'Éternel? Découvrez, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est le passé toxique. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi? Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Pas encore à leur terme. À cause de toi. À cause de toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore à terme. Pas encore épuisées. Ce sont des missionnaires qui cherchent où entrer et opérer et travailler.
Amen.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons-y, lisons Jérémie chapitre 30. Ah, vous pouvez continuer la suite. Nous allons à Jérémie. Oui. Jérémie chapitre 30, verset, on va lire verset 12 à 13 et verset 17. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Ça, c'est le constat. Ok? Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Et peut-être il y a eu cette déclaration sur toi. Ok? Ça, c'est verset 12 et 13. Verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Dit l'Éternel. Ah, je ne sais pas combien de temps tu as vécu dans ça. Il y a une guérison. L'Éternel te promet guérison. Merci Seigneur. Nous allons à Jérémie, toujours Jérémie chapitre 31. On va lire quelques versets 11, 13, 16 et 17a. Jérémie 31, versets 11, 13, 16 et 17, les premiers stiques. Merci beaucoup à la technique. Lisons. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main du plus fort que lui. Maintenant, à la place de Jacob, tu vas mettre le nom de qui? Tu mets le nom de Jess Diop Ngangombo. Hein? Voilà. Qui est Jess Diop Ngangombo? Un seul, hein, c'est moi. Donc tu mets ton nom. Allons-y, reprenons ce verset. Car l'Éternel rachète, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Pourquoi? Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Il y a la consolation. Il y a la joie qui vient pour toi. Il y a l'allégresse. Et nous allons voir les vieillards et les jeunes sauter et danser. Parce que reçu, vécu, expérimenté la guérison intérieure. Ces maladies-là vont cesser, guérir. La joie. Tu vas chanter le temps de l'allégresse, de la consolation. Viens et le temps de deuil est fini. Il passera. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Ça c'est le verset 16. Et allons-y au verset 17. Qu'est-ce que nous allons dire? Verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel. Seulement cette phrase-là, c'est stick.
Wow. Amen.
Quelqu'un peut dire, il y a de l'espérance pour mon avenir.
Il y a de l'espérance pour mon avenir.
Déclare l'Éternel, mon Dieu.
Il y a de l'espérance pour mon avenir.
Mais déclare l'Éternel, mon Dieu.
Tu
peux faire cette déclaration pour tes enfants, pour ton mari. Pour le futur de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes parents. Il y a l'espérance, de l'espérance. C'est ce que l'Éternel te déclare. Il y a de l'espérance. Merci Seigneur. Lisons encore un autre psaume de jubilation. 30, versets 12 et 13. Psaume 30, 12 et 13. Psaume 30, 12 et 13. Psaume 30, 12 et 13. Oh, merci Seigneur. Ouvrez la bouche, notez, ouvrez la bouche et lisez. Regardez ici, s'il vous plaît. Lisons. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Verset 13. C'est 12-13, non? C'est comment? Ou bien le précédent 11-12, psaume 30. Non, commencez à 11 alors. Ouais. Chez moi, il y a 13. Dans ma Bible de travail, il y a 13. 11, voilà. Voilà, suivez bien. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Le sac en Israël, c'est le signe apparent d'humiliation, des deuils, des jeûnes, des souffrances, des hontes. Dieu enlève ce sac-là comme vêtement sur toi. Amen. Et il te ceint d'allégresse à la place des lamentations. Il y a une saison d'allégresse qui vient pour toi, mon frère. Il y a une saison d'allégresse. Et tu ne seras pas muet. Parce que ton cœur rempli d'allégresse, ta bouche va éclater. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lisons quelques passages et nous terminons. Romains 8. Nous allons chanter tout à l'heure. Ça sera ça notre prière. Romains 8, 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Et je voudrais que vous notiez aussi Luc 4, verset 18. Nous n'allons pas lire ça, mais nous sauterons. Vous savez, j'allais dire nous, jump. Je ne sais pas pourquoi, c'est devenu comme ça, jump. Et moi, nous sauterons à Jérémie 17, 14. Vous notez Romains 8, 14 à 16 que nous lisons. Vous notez Luc 4, 18. Nous reviendrons sur ça. Nous ne le lisons pas aujourd'hui. Et nous allons lire Jérémie 17, 14. Notez cela, s'il vous plaît. Si vous avez terminé, vous vous levez. Jérémie 17, verset 14. Si vous avez terminé de noter, levez-vous. Parce que c'est des lectures finales que nous lisons en proclamation. Tu es en opération. Tu as vécu dans les deuils. Tu as passé une vie endeuillée. Ta bouche est remplie de l'habitude de plaintes et de lamentations. Oh, le Seigneur remplace cela par l'allégresse. Luc 4, 18, nous ne lisons pas, s'il vous plaît. J'ai parlé de Romains 8, 14, 15 et 16. Romains 8, 14, 15 et 16. Et puis Jérémie 17, 14. Ensemble, proclamons-les. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici? Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Allons-y, verset suivant. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma paix. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Disons-le à la première personne. Personnel du singulier. L'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Waouh! Pas de servitude, enfant de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si j'ai besoin de guérison, qu'est-ce que je vais dire? Nous terminons avec Jérémie 17, 14. Crions ce texte, allons-y. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Venez, venez, chers enfants, nous allons célébrer la gloire du Seigneur. Proclame encore, guéris-moi, Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Que la gloire du Seigneur vienne sur toi maintenant. Que la guérison, l'esprit de guérison, l'onction de guérison te touche. Maintenant que ton cœur soit visité par cette présence de Dieu qui guérit ton intérieur. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce que tu ressens, mais que la gloire du Seigneur t'enveloppe, t'environne, t'encadre, remplisse tes sentiments, ton cœur, ton âme. Même là déjà, par la parole, que tu commences à guérir. Que tu commences à guérir et que ton cœur se libère de tout ce qui a été anomalie, maladie, blessure intérieure. Et que de ta bouche, tu proclames la gloire du Seigneur. Nous allons exprimer cela avec la chorale par le chant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Sentez-vous libre. Il y a de l'espace là-bas, ici devant. Vous voulez vous agenouiller? Venez, agenouillez-vous. Nous prenons quelques, juste 5 minutes avec ce chant et nous clôturons. Merci Jésus, merci Jésus. Allez-y avec ce même chant-là.
Thank you.